Vous écoutez France Culture.
Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Joël Roussier, qui publie « Temps d'hiver ou le jardin varié des jours » aux éditions Héros Limite. Selon la tradition, j'aurai le monde sous le bras. Ainsi, vous me reconnaîtrez avant que je n'aie pu vous identifier. Vous donnant l'avantage, je sais que vous n'en abuserez pas. Il vous viendra peut-être de l'émoi de voir ainsi à votre portée l'assassin de votre père. Serrant le revolver dans la poche de votre veston, la tentation sera grande, je vous en préviens. Le cœur peut conduire à quelque extrémité, et si cela se produit, croyez que je ne regretterai pas la démarche que je me suis promise de vous faire légataire universel de la fortune que, sans le meurtre de votre père, je n'eusse jamais acquise. Finalement, Joël Roussier, vous n'avez pas publié tant de livres que ça, une dizaine à peu près, et c'est tout.
Oui, c'est déjà pas mal quand même, mon âge, je ne suis pas si vieux que ça, mais enfin quand même, c'est vrai que ce n'est pas énormément. Je n'ai pas eu énormément d'éditeurs en fin de compte, et puis je n'ai pas eu, on peut dire sur un autre plan, énormément de chance en fait. On pourrait dire que les livres que je publie, quoique publiés chez de très bons éditeurs, ne se vendent pas beaucoup. En fait, probablement, ils ne sont pas faits pour un public plutôt populaire et tout ça. C'est plutôt pour un public, je dirais, lettré ou raffiné un peu, ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, poétique en tous les cas.
Le premier de vous que j'ai lu, et vous étiez venu en parler dans l'une de mes émissions, je crois bien que c'était dans celle-ci d'ailleurs, dans Du jour au lendemain, c'était La cinquième île, publiée aux éditions Le Tout sur le Tout. Un éditeur qui a disparu, semblait-il.
Ben oui, c'était un très bon éditeur, en tous les cas, qui avait republié un certain nombre d'écrivains des années 50, et qui faisait un très joli travail sur les livres aussi, c'était de très beaux livres. Et ensuite, il a arrêté après moi, en fin de compte, j'étais le dernier qu'il a publié, il a publié 3-4 livres de moi. Et ensuite, il a arrêté parce que, en fait, je pense que sur un certain fond, il en avait assez un peu du milieu littéraire ou des difficultés qu'il avait donc à faire valoir ses livres dans ce milieu littéraire, je pense.
Le dernier livre qu'il a publié de vous, c'est 31 levées du jour. C'était en 2003, l'année où vous aviez publié également L'homme sédentaire et la femme voyageuse.
Oui.
Et plus tard, chez un autre éditeur, La Rumeur Libre, vous avez publié « Nous et nos troupeaux », dont vous êtes venu aussi parler ici. C'était en 2009. « Voyage biographique » l'année suivante. Et un paquebot magnifique l'année d'après. Vous avez également publié des textes sur des écrivains dans différentes revues comme « Plein Champ » et « L'atelier du roman ». Des textes qui donne une indication biographique. Vous aimez certains écrivains, il y en a d'autres sans doute que vous détestez, mais ceux que vous aimez particulièrement, c'est Robert Musil, Thomas Bernard, Robert Walser, Adalbert Stifter et André Dautel. Une belle bibliothèque.
C'est une bibliothèque de goût et tout ça, parce que j'aime assez, en fin de compte, la littérature. On pourrait dire à la fois la littérature, on pourrait dire réfléchie, que l'on trouve chez Musil, mais plutôt une tendance poétique générale qui aurait un certain rapport, on pourrait dire, au paysage, à la nature, et qui est plutôt une littérature, oui, peut-être faudrait mieux la qualifier comme ça, une littérature plutôt impersonnelle. Qui vise le poétique et l'impersonnel plutôt que, disons, une psychologie et une vie sociale ou des choses comme ça. Plutôt des choses qui sont en rapport de l'individu et du cosmos, quoi, on pourrait dire.
Il y a un auteur qui ne figure pas dans cette liste, mais qu'on pourrait ajouter, c'est Milan Kundera, puisque vous avez assisté à son séminaire à l'École des hautes études en sciences sociales, un séminaire qui vous a marqué et peut-être donné envie d'écrire.
Oui, pas forcément envie d'écrire, mais c'est-à-dire, j'étais pas du tout dans la même veine que Milan Kundera, même au niveau esthétique, je ne partage pas du tout son esthétique sur un certain plan, mais c'était un séminaire très agréable où se sont retrouvés un certain nombre de gens un peu, on pourrait dire un peu curieux, en recherche, disons, de voix, parce que, en fait, Milan Kundera portait un petit sang nouveau, disons, on peut dire, à l'époque, dans la littérature française. Et puis aussi, il apportait souvent, surtout, disons, une vision de l'Europe centrale qu'on avait totalement oubliée en Europe, c'est-à-dire qu'il élargissait un peu l'Europe comme type de point de vue, et aussi faisait penser la littérature européenne dans une perspective, disons, on pourrait dire mondiale, au sens goethéen, aurait-il dit lui-même, d'ailleurs, puisqu'il défendait l'idée, la vision européenne de Goethe était une vision mondiale, en fait. Donc, en fait, l'influence qu'ont donné les écritures d'Europe centrale, notamment, je pense encore aujourd'hui, je veux dire, la Tchécoslovaquie, bien évidemment, mais la Hongrie, par exemple, a des écrivains extraordinaires. D'ailleurs, Anton Tomasi, qui a publié justement, comment il s'appelle, Héros Limite, là, justement, ce sont des auteurs splendides, Crudi, tout ça. Vraiment, on a une quantité d'auteurs aujourd'hui, Esterhazy, par exemple, qui sont d'une influence colossale pour nous, disons, si l'on veut écrire aujourd'hui et si on veut renouveler la vision, on pourrait dire... je dirais un peu trop romanesque, on peut dire, telle qu'on l'aperçoit en France, c'est-à-dire la description uniquement de la réalité d'aujourd'hui, qui, après tout, n'offre pas grand intérêt.
Alors, je citais Robert Walser, et il se trouve que dans la présentation que vous faites de ce nouveau livre « Temps d'hiver » ou « Le jardin varié des jours », vous présentez ce livre comme un livre de petite prose qui épouse la variété des jours et des discours.
Oui, alors il y a une idée là-dedans, c'est-à-dire que c'est d'abord une petite, on peut dire, préface imitée donc de Saadi. Donc Saadi, dans sa préface du Jardin des Roses, donc insiste sur le fait qu'il a emprunté à personne. Et moi, je tenais à dire, si vous voulez, contre une certaine mode ou une certaine déclaration, disons, d'artiste ou de poète, etc., qui déclare que, eh ben voilà, ils sont originaux, ils cherchent l'originalité à tout prix ou le nouveau. Je voulais dire qu'en fin de compte, il n'y a pas de champ littéraire sans le reste, c'est-à-dire sans ce qui précède ce champ qui est toujours le champ littéraire. Et que donc, à partir de là, je voulais montrer à quel point on était... Il soulignait, disons plutôt, le fait qu'il y avait... J'ai emprunté à tout le monde. Voilà, j'ai emprunté à tout le monde. Si je n'avais pas lu, je n'aurais pas écrit. Voilà, donc c'est une chose simple. Et donc, de manière à le souligner, contre la mode qui consiste donc à dire l'inverse. L'autre aspect, c'est qu'en fait, c'était sur le côté varié. Du coup, en fin de compte, à partir du moment où on veut pas exprimer absolument une originalité, donc en conséquence une singularité individuelle, et qu'on veut, disons, faire de la littérature, écrire de la littérature, eh bien, auquel cas, les champs sont extrêmement variés, nécessairement. Et ils ne s'éloignent pas forcément du biographique, en conséquence, puisqu'en fait, tous les jours, on change d'humeur. Voilà, c'était un peu ça, l'idée.
Alors, vous venez de citer le Jardin des Roses, et il se trouve que vous allez publier très prochainement un livre de poèmes que vous avez intitulé « Roses ». Je crois que c'est la Rumeur Libre qui va le publier.
C'est exact. Il va sortir donc en juillet, ce livre. C'est un livre sur les roses. C'est un livre très sensuel, sur des bouquets de roses. écrit, disons, assez au fil de la plume, avec une très forte sensualité de la présence donc de ces roses, de ces pétales qui sont un peu comme des taffetas, comme des choses très à la fois précieuses et lourdes et sensuelles. Voilà.
Vous faites une différence entre les poèmes et les petites proses ?
Probablement oui, parce qu'il y a quand même dans les petites proses, il y a toujours un effet narratif, c'est-à-dire il y a quelque chose de supposé d'une histoire. Si au moins elle n'est pas tout à fait développée, elle est au moins une histoire possible. Et donc elle est une histoire possible dans le sens, je veux dire, où je ne donne pas tous les tenants et aboutissants forcément, mais on l'imagine, on est sensible du point de vue narratif. Et évidemment aussi du point de vue poétique et du phrasé, etc. Parce qu'en fait, ces proses, enfin la manière dont je souhaite faire de la littérature, on pourrait dire, c'est plutôt de travailler davantage sur l'aspect poétique de la prose. C'est-à-dire, en fin de compte, redoper, on pourrait dire, le roman par des éléments empruntés, disons, on pourrait dire, à la métrique, à la prosodie ou à des choses comme ça. Je suis très sensible au retour des sonorités, au retour rythmique ou des choses comme ça, aux longueurs plus ou moins longues des phrases, au rythme, disons, de l'ensemble, etc. Et aux évocations, évidemment, plus qu'à dire quelque chose qui serait plus précis. Car en fin de compte, plus profondément, je dirais que c'est plutôt l'aspect... Pour réenchanter le monde un petit peu après voilà, le désenchantement du monde, etc. Je cherche à réenchanter le roman plutôt que de le faire glisser, comme Kundera justement l'avait fait, sur l'aspect, enfin, avait insisté sur ce point-là, disons, il n'a pas fait que ça, hein, je veux dire, mais il avait insisté sur l'aspect ironique du roman, sur l'aspect jeu, etc. Une distanciation donc avec le réel qui permettait une sorte de critique du réel. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas du tout dans une critique, je ne me mets pas dans une critique, mais au contraire, d'en faire vibrer un certain nombre de choses de manière à réenchanter, à doubler, disons, nos possibilités d'existence, à jouir davantage, enfin, des choses de cet ordre-là, quoi.
Mais ce livre, Temps d'hiver ou Le jardin varié des jours, n'est pas un roman.
Non, ce n'est pas un roman, c'est un ensemble de nouvelles, donc en fin de compte...
Des petites proses.
De petites proses, oui.
Alors, qu'est-ce qui fait que cet ensemble de petites proses compose un livre ?
Parce que d'abord, il a un début et une fin. Donc, c'est-à-dire, il a grosso modo une introduction qui introduit donc l'idée qu'on a des humeurs variées, etc., etc. Et puis ensuite, on a au final quelque chose de l'ordre qui pourrait dire on pourrait continuer, mais on s'arrête là. Et donc, en fait, il y a quelque chose, c'est-à-dire comme si, d'une certaine manière, c'est une position assez simple, le point de vue de l'auteur donc, se mettait dedans à ce moment-là et puis disait voilà, ben, on a fait ça. Voilà les humeurs. Et puis donc, en fin de compte, on pourrait même aller s'amuser à dire que c'est le récit des jours successifs de quelqu'un qui a écrit ça, voilà, mais qui sait écrire et qui aime écrire, etc.
C'est un livre qui n'a pas de sujet. Est-ce qu'un livre peut ne pas avoir de sujet ?
C'est un peu difficile de dire. Ces sujets, on pourrait dire que les sujets sont des humeurs, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'on pourrait arriver à dire qu'il n'y a pas de sujet au sens où, je veux dire, il ne s'agit pas de traiter de ceci ou cela, mais il s'agit de faire en sorte qu'une humeur particulière soit perçue. Et donc, c'est pas, auquel cas, ce n'est pas réellement un sujet. Ce n'est pas quelque chose qui est vu non plus. C'est quelque chose qui doit être vécu. C'est une expérience.
Le sujet, c'est la variété. La variété des jours.
Oui, c'est peut-être ça, on pourrait dire, oui. C'est-à-dire qu'en fin de compte, souligner le fait que... souligner aussi le fait qu'un individu est varié, il est pluriel, quoi. C'est-à-dire, c'est insister sur le pluralisme plutôt que vouloir développer, par exemple, on pourrait dire, pour un auteur, en tous les cas, ça s'est fait beaucoup, développer un style. Ah, je reconnais bien là son style. Et au contraire de ça, justement, j'ai vécu un moment, ça pourrait être d'ailleurs pas signé, d'ailleurs, ça ne gênerait pas.
Mais vous dites variété des jours et des discours, ce qui suppose que vous prenez en compte aussi l'élément livre dont vous parliez tout à l'heure, lecture,
oui,
à l'origine de vos proses.
Voilà, oui, c'est-à-dire que, non pas à l'origine, c'est ni à l'origine, ni au milieu, ni à la fin, je dirais. C'est à un moment donné, il se trouve que l'écriture, ou le moment d'inspiration, suivant comment on le traite, est résonne avec des choses qui ont été dites. Alors, ça peut être au début, évidemment, ça peut être au milieu, ça peut être n'importe comment. Dans le texte, par exemple, sur Saadi, la série donc, sur Saadi, il y a la première, par exemple, petite histoire, est une nouvelle tout à fait tirée de Saadi. Et j'ai mis d'ailleurs en italique la phrase extraite, d'après la traduction, de Saadi. C'est-à-dire, c'est une manière de rebondir. En général, pour donc, disons, pour la composition. Et puis l'autre affaire, c'est de dire que donc la variété des discours, c'est que les, c'est-à-dire, c'est l'idée du dialogisme. C'est toujours un peu savant de dire ça, mais du dialogisme chez Bakhtin, pas le dialogisme comme on l'entend aujourd'hui. C'est qu'en fait, on répond toujours à des discours ambiants, quels qu'ils soient, des milliers de sortes de discours, de la publicité au bavardage avec les gens, etc., etc. Et donc, il y a une variété de discours. Et dans le genre littéraire, il y a une variété. Je veux dire, il y a le conte, il y a le petit récit court, comme le récit que vous avez lu sur, justement, qui est une petite anecdote, qui est amusante, et qui est amusante parce qu'elle pourrait... C'est un petit récit qui se retourne sur lui-même, quoi, un petit peu. Et ben, voilà, c'est une possibilité dans toutes les possibilités qu'on a qui nous sont offertes par les différents genres qui existent. Je n'ai pas fait de policier, ça, c'est peut-être le seul qui fait un peu policier, disons, on peut dire. Mais à la limite, je veux dire, c'est pas mon inspiration du tout, parce que je cherche davantage des humeurs, voilà.
Vous mettez en avant la variété, mais aussi l'altérité, hein, parce que vous avez emprunté à la musique, aux anecdotes, aux écrits des autres, etc.
Oui, c'est-à-dire l'altérité dans le sens... C'est un peu embêtant ce terme aujourd'hui, parce qu'en fin de compte, quand on renvoie une altérité, on veut renvoyer à une identité. Alors comme c'est des récits impersonnels, c'est un peu difficile de parler. Je parlais plutôt d'exotisme, c'est-à-dire... Après tout, les humeurs que nous vivons nous sont étrangères, un peu, elles arrivent comme elles arrivent. Et donc, après tout, les récits nous parlent de la même manière, de manière étrangère. À quoi servent-ils, en fin de compte ? À surprendre et puis à intensifier un peu ce qu'on vit. On vit deux fois quand même, on vit une autre fois en les écoutant, en les lisant, en les faisant, etc. Mais surtout, intensifier. L'altérité n'est pas ce qu'il y a de plus important dans l'affaire, c'est plutôt de raisonner avec l'ensemble de ce qui existe dans un champ donné qu'on appelle la littérature. Si je suis clair.
Ouais. Et vous vous élevez contre une mode déplorable qui veut renier ce qui précède au profit de l'étroit présent.
Oui, la phrase est claire, non ? Elle dit ce qu'elle dit, c'est-à-dire que il y a souvent un reniement de ce qui précède. C'est-à-dire, je veux dire, la plupart des romans qu'on couronne ici à droite à gauche, ils nous racontent ce que je vois dans la rue tous les jours. Je veux dire, voilà, et je vois pas du tout l'intérêt de faire ça. Donc, cet étroit présent n'est pas si intéressant que ça. Je veux dire, voilà, c'est pas parce qu'on vit dedans qu'il serait plus intéressant qu'un autre. Et donc, c'est en fait pour me dégager de ça et pour proposer au fond, en tant que la littérature serait un art. Et comme perspective pour les arts en général, de se dégager donc justement du réel et des problèmes de la réalité, c'est-à-dire de le réel et enfin tout n'est pas si intéressant que ça. Voilà.
En tant que lecteur de vos propres proses, Joël Roussier, vous dites qu'elles sont tantôt savantes, tantôt malhabiles.
Oui, alors ça c'est aussi
dur d'être malhabile.
Oui. Non, mais c'est un peu aussi une préciosité, je veux dire, pour le lecteur. Donc, elles sont tantôt savantes, ça veut dire le poète se place dans la situation, qu'il est un homme qui est savant, qui connaît le discours, qui a des choses à dire, etc., qui est savant de certains côtés. C'est ce que défendait Saadi lui-même, je veux dire, c'est un savant par ailleurs, etc. Et puis, par politesse vis-à-vis du lecteur, évidemment... comme c'est le lecteur qui est à lui, c'est à lui de juger, alors donc il sera forcément maladroit, etc., plus ou moins. Donc une petite pédanterie, on peut dire, et une petite élégance, autrement, on peut le dire autrement, qui résonne avec Saadi, parce que très souvent, je veux dire, l'auteur ne se présente pas. On le retrouve dans le XVIIIe siècle avec des gens comme Sterne, etc., qui se présentent très bien, ou Diderot, etc. Donc je suis tout à fait adhérent dans ce type de position, qui est une position d'un poète qui se présente comme ce qu'il est. C'est-à-dire quelqu'un en train d'écrire, voilà, ou des choses comme ça. C'est pas très gênant, il n'y a pas besoin d'écrire que j'écris, c'est pas la peine. Ça se voit, mais on s'adresse du coup au lecteur, on est honnête jusqu'au bout.
Il faut beaucoup travailler pour être maladroit.
Oui, contrairement à ce qu'on pense, je pense qu'en fait, bon, là, je dis des choses qui sont un peu banales, mais il est vrai que ces petites proses-là demandent une grande habitude. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut travailler régulièrement pour arriver à obtenir une fluidité. Quoi. C'est ce qui est difficile, c'est d'obtenir une fluidité intéressante. Et qui évite, parce que ça c'est un deuxième plan, j'essaye d'éviter les lourdeurs du 19e. On pourrait dire que le 19e, le roman du 19e avec dit-il, il vint ici, etc., toutes les explications réalistes sont extrêmement pour nous devenues lassantes, à peu près, j'avais fait un article d'ailleurs là-dessus, qui était aussi lassant que le roman de chevalerie, quoi. On n'y comprend plus rien. Enfin, je veux dire, c'est agaçant. Ça a déjà été dit. Hein, je ne suis pas le premier à le dire. Donc, d'éviter tout ça et d'essayer de construire donc des choses qui permettent de faire des sauts qui soient compréhensibles pour le lecteur sans avoir besoin de ces espèces de ficelles qui, pour finir, sont lassantes, quoi.
Comment vous l'avez construit alors ce livre ?
J'ai construit au jour le jour. En fait, il s'est construit un peu tout seul. Voilà. Et il y a un moment donné, il me semblait fini.
C'est-à-dire que les proses sont publiées dans l'ordre chronologique de leur rédaction ?
À peu près, oui. À peu près. Je ne voyais pas d'autre ordre qui me semble... Puisque c'est des humeurs variées, en fin de compte, un jour on est en forme, le lendemain pas, etc. Il me semblait nécessaire, comme elles sont aussi dans des styles très différents, enfin dans des styles, c'est pas le mot style qu'il faudrait dire, mais dans des humeurs très différentes, donc il fallait qu'elles succèdent comme ça, sans ordre particulier, au fond, enfin, sans volonté de liaison cohérente.
Alors, on est loin de l'étroit présent, évidemment, et c'est plutôt dans un univers passé que se situent ces petites proses dont les héros se souviennent. Les phrases sont le plus souvent à l'imparfait, et c'est la troisième personne du pluriel que vous employez le plus couramment.
C'est possible, la troisième personne du pluriel, je ne l'avais pas remarqué à ce point-là. Mais en tous les cas, sur la question, ce n'est pas forcément le passé, c'est le temps de la narration en général. On peut le qualifier de passé si on s'intéresse à la question du temps. Et sur cette question du temps, justement, j'avais quelque chose à dire là-dessus d'assez important pour moi. Il y a un certain nombre de proses, justement, dont le bouclage, si l'on veut, dans la manière dont elles se terminent, sont une sorte de ce que j'appelle, moi, une perversion du temps. C'est-à-dire que ce qui m'a intéressé au départ dans ce livre, c'était une sorte de perversion du temps, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il était bizarre, la chose qui arrivait, on se demandait si elle n'aurait pas dû se passer avant alors qu'elle était après, et on ne sait pas du tout dans quel temps on est. Et donc, du coup, on est un peu... Oui, j'appelle ça une perversion du temps, c'est-à-dire que... comme si, justement, c'est je ne me rappelle plus quel est le nom de la nouvelle, mais il y a une nouvelle dans laquelle c'est très net, justement, où vous avez un bateau qui revient alors qu'il est parti depuis très longtemps. Donc ça n'a aucun sens qu'il soit là. Et donc ça fait bouclage quand même. Et ça me plaisait beaucoup, cette espèce de décalage que quand on vit nous-mêmes, on a des moments qui par exemple, on peut être d'une humeur maussade parce qu'on a pensé à l'instant à un truc ancien passé, alors qu'on n'a aucune raison, on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Et donc ce terme passé vient se mettre dans le moment présent. Et donc il y a une sorte de perversion du temps, on ne sait pas trop quel temps on vit.
Voilà. Dans la première nouvelle, l'esprit objectif, le sol est gélatineux, glissant, mais qui ne glissait pas.
Oui. Oui, c'était un peu un sol... D'ailleurs, en plus, c'est une idée... Vous voyez que si vous étiez enfermé dans une méduse, c'est une idée, vous vous dites avant...
Ça vous est arrivé.
Ça m'est arrivé très souvent, évidemment. Et donc, voilà, le sol, c'est donc, la matière de la méduse, ça paraît glissant et ça n'allait pas tout à fait. Donc, en fait, compte, ça paraît contradictoire par les mots employés, mais en fait, ça ne l'est pas au sens émotionnel, quoi.
Et vos héros, troisième personne du pluriel, ils avançaient péniblement sous une lumière grise. Et on est dans un drôle de monde, on est dans une ambiance de fin du monde. Comme si, à l'ouverture du livre, on se situait après... une catastrophe.
Oui, alors l'idée, c'est qu'on se situait après une catastrophe dans le sens où avant, on est peut-être aussi en même temps chez les chasseurs-cueilleurs. En même temps. Et donc, en fait, c'est un peu une idée que... par la suite, j'ai écrit, justement, une nouvelle qui est parue dans l'atelier du roman, là, justement, une nouvelle qui est atroce, justement, qui pourrait, elle, pour faire penser, donc, on pourrait dire, à une catastrophe, et une catastrophe ayant eu lieu. On en a assez, hein, je veux dire, c'est pas... Il n'y a pas à épiloguer là-dessus. Mais... on est aussi dans un avant, comment dire, la rêverie, je veux dire, qui est là-dedans, c'est en fin de compte une rêverie de... Imaginez vivre dans la brousse ou je ne sais pas quoi, et puis craindre un ennemi constamment. Et donc, c'est quelque chose de terrible. Et donc, on est dans une tension, mais en même temps, on est là, on doit vivre, voilà. C'est un peu toujours des vécus un peu, disons, semi-dramatiques, comme ça. Et c'est « il », c'est parce que c'est toujours l'idée d'une sorte de tribu. C'est « il », mais ça pourrait être un « on », impersonnel, c'est « personne » qui vit ça.
Dans une autre nouvelle, « ils aimaient des thés spéciaux qui font voyager, des thés très noirs ». Et un jour, ils furent subjugués par un thé goudronneux qu'on donnait aux souffreteux.
Le goudronneux et souffreteux donc permet la rime, si vous voulez. Mais autrement, c'était l'idée qu'on pourrait arriver à avoir des plaisirs aussi intenses comme ça, jusqu'à boire, justement, là, en l'occurrence, un thé qui était, on peut imaginer, qui était bu par des tuberculeux. Et attraper la tuberculose par plaisir, par avidité, disons, on peut dire. Et puis voilà, ça fait une vie tragique. Il y a beaucoup d'évocations dans ces nouvelles de choses comme ça, c'est-à-dire de choses qui sont en fin de compte, qui sont impersonnelles et puis nous arrivent, en fin de compte, comment on pourrait dire, un grand malheur, mais qui n'est pas... qu'on peut pas qualifier. On ne sait pas trop ce que c'est que ce malheur, mais en tous les cas, on sent très bien qu'on frise quelque chose d'atroce.
C'est le mal pernicieux.
C'est le mal pernicieux, voilà.
On n'en meurt pas.
On n'en meurt pas, on en est dans une tragédie. Oui. C'est un peu ça. C'est comme si on était constamment dans un mouvement tragique de, où on sait qu'on va mourir. Quoi, en fait, c'est au niveau... Enfin, peut-être sur le fond, il s'agit que de ça. Voilà.
Le texte suivant ça s'intitule « Soupe des morts ». Là, ils étaient à l'âge où les forces déclinent. L'automne était présent, menaçant.
C'est dans la même lignée. Il y a un certain nombre de textes comme ça. Peut-être sur un certain plan, on peut dire que c'est. Il s'agit là aussi, il y a quelque chose de l'ordre du tragique dans le sens poétique du terme, c'est-à-dire que il s'agit d'éprouver une émotion plus ou moins. Et donc, en fin de compte, vous voyez bien que le plus facile, c'est souvent de frôler la mort. Et donc, beaucoup de gens s'y laissent aller. Et moi, là, je dois dire que parfois, il y en a un certain nombre, effectivement, qui... Mais évidemment, la vie humaine est tragique, mais voilà. Mais la vie humaine est tragique, mais d'éprouver ses émotions, ce ne l'est pas. C'est une intensité supplémentaire dans la vie.
Et pour nous rassurer, vous publiez un autre texte dont le titre est « Ne désespérez pas du temps qui n'est pas encore là ».
C'est ça. Oui. Donc déjà, on se jette en avant. Hein. Le temps n'est pas encore là. Donc oui, il n'y a pas grand-chose à dire de ça. Il faut. Ce n'est pas une vision du désespoir. C'est en fait une intensification par la douleur. C'est-à-dire comme si la douleur, aussi bien que la joie, étant impersonnelle, serait imputable à rien, à personne, et donc on n'aurait pas à lutter. Et voilà, c'est comme ça.
On est au temps de la fleur et des épines.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que donc dans cette histoire, c'est vraiment ça, une jolie jeune fille, etc. Et puis dans un voilà qui séduit tout le monde, et cette jeune fille va finir par ouvrir les portes de la citadelle aux ennemis. C'est-à-dire pourquoi? Ben au fond, c'est un peu les raisons profondes de ça, c'est comprendre un petit peu que. On est son propre ennemi, plus ou moins. Et quand on souhaite vivre quelque chose, ben, on finit par faire des choses comme ça. Si on vit rien, donc là, la jeune fille, elle s'ennuie, en fait. On pourrait dire ça. Et donc, elle ouvre à l'ennemi, au moins, il se passe quelque chose.
Comme lorsqu'on pose une question. Et les jeunes filles se posaient trop de questions.
Oui, les jeunes filles se posaient trop de questions. Je ne me souviens plus de ça. Non, je...
Faut rester sans réponse.
Oui, je reste sans réponse. Les jeunes filles, vous avez trop de questions. Non, je me souviens plus de ça.
Il y a un texte qui s'intitule Ainsi qu'il en est, où la vie allait comme s'il sonnait des cloches tristes. mais d'une grande beauté. Et il y a un lien dans la plupart des nouvelles entre le côté sombre qu'on a décrit et la beauté, sous la forme, par exemple, de la musique.
Oui, parce que c'est un peu comme... c'est un peu, en fait, c'est que, on pourrait imaginer des choses comme ça, c'est un peu comme la sensation extrêmement, comment dire, forte et puissante d'être au bord d'une falaise ou des choses comme ça, d'être prêt à tomber sans tomber. Et à ce moment-là, il y a une vraie jouissance. Et je pense que, d'un certain côté, une partie de l'art, dans ses aspects tragiques, disons, est fait de ça. Et, c'est-à-dire, la jouissance qu'on a à le lire, et d'ailleurs, c'est assez curieux, mais en fait, c'est comme si... On frôlait quelque chose de tragique et ça faisait monter davantage les jouissances. Mmh.
Vous parliez tout à l'heure de l'étroit présent, Joël Roussier, et pourtant vous dites que les contrées lointaines noient nos jours et nos nuits à la fin du livre.
C'est-à-dire que là, c'est un peu complexe, mais l'espace, la rêverie, on peut dire, de s'en aller, la rêverie des lointains et des choses comme ça, ne permettent pas trop de vivre. Je ne sais plus trop pourquoi. Ces contrées lointaines noient nos jours. C'est-à-dire, ce qu'il y a de curieux là-dedans, c'est qu'en fait, des contrées puissent noyer. Enfin, déjà, ça n'a pas de sens, cette idée-là. Et justement, on s'imagine des espaces très, 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 comment dire, immenses et tout ça, et tellement immenses qu'on est noyé là-dedans, mais en même temps bercé, on ne sait pas trop où on est. C'est les jours et les nuits, on est baigné dans des contrées lointaines, des rêveries un peu floues, un peu incompréhensibles, comme l'infini, comme des choses comme ça, qui sont à la fois des jouissances et des berceuses, et qui sont à la fois des angoisses profondes. Enfin, voilà.
On guette ce qui vient ? Des aventures qu'on ne vit qu'en passant.
Oui, c'est ça, c'est la vie moderne, quoi. On guette ce qui vient, et en même temps, on le craint, et on sait très bien que ce qui nous arrive, c'est pas grand-chose, voilà.
L'un des personnages dit « Je suis parti pour me perdre ».
Il y a toujours eu ce désir, je veux dire, parce qu'en fait, l'individu est prisonnier de lui-même, je veux dire, plus ou moins. Et donc, tout individu, dans un milieu donné, etc., se sent gêné par ce qu'il est. Et donc, en fait, il voudrait perdre ce qui s'est attaché à lui. Et on pourrait dire le déconstruire est un grand mot, parce que le perdre, c'est plus clair au moins. Je veux dire, le déconstruire, c'est un peu trop compliqué comme opération. Mais le perdre, comme si on marchait pour se détacher du monde. De vraies rêveries, c'est de fermer la porte derrière soi et de s'en aller, voilà.
Temps d'hiver où les... Temps d'hiver où le jardin varié des jours de Joël Roussier aux éditions Héros Limite. Du jour au lendemain, Benjamin Vignal, Gilles Davidas, François Poirier, Alain Weinstein. Bonsoir.